Les Déserteurs, un nouvel album de HK.
Bah c'est pour le coup sur cet album là, c'est HK et Les Déserteurs, parce que les musiciens qui m'accompagnent, qui sont un orchestre Charbi formé pour l'occasion, donc je rappelle Les Déserteurs, le projet c'était de reprendre des standards de la chanson française, réorchestrée version Charbi, donc le Charbi, la musique populaire algérienne, un peu comme si Brel, Brassens, Ferré, Ferra, Piaf s'étaient retrouvés un soir dans un vieux bistrot dans un quartier populaire d'Alger.
Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle.
On a monté ce projet à la base avec mon ami Mehdi du groupe HK et les Saltimbanques et mon ami Hassen du groupe MAP. Donc voilà, c'est toujours la fidélité aux vieux compagnons de route. Et à trois, quand on a eu cette idée-là, on s'est dit. Ben voilà, on va essayer d'appeler des musiciens qui portent cette musique, qui portent cette culture en eux. Les noms sont apparus très vite. Rabah Khalfa à la Derbouka, c'est un grand maître. C'est vraiment celui qui a révolutionné cet instrument, qui l'a sorti de l'ombre, qui l'a anobli en quelque sorte. On a été vraiment très fiers qu'il ait répondu à l'appel. Donc on a appelé aussi nos amis Ptimoh et Amar Chaoui du groupe Gnawa Diffusion. Ptimoh qui est le joueur de mandole emblématique de ces 20 dernières années en Algérie. Voilà, c'était l'idée de cette quête d'authenticité dans des gens qui portaient cette culture Charbi en eux.
Donc, Les Déserteurs, c'est le titre de cet album. On retrouve d'ailleurs Les Déserteurs en 6e plage. Il y a plein de titres connus également dans ces chansons-là. Comment tu as composé un petit peu l'équilibre de cet album ?
Alors, on se dit à la base, donc on veut reprendre des standards de la chanson française. Donc, on fait une première sélection. On se dit quels sont les incontournables ? Et on fait la liste des incontournables et on invite plus de 50 titres. Donc c'est les 50 qu'on ne peut pas ne pas reprendre. Donc de là, après, il faut arriver, pour faire un album, arriver à une quinzaine de titres. Donc ça a été très, très difficile et voilà, très cornélien dans tous les sens du terme pour arriver à choisir, quoi.
Alors évidemment, on connaît ton implication dans la société. Tu es on va dire militant. Je pense qu'on peut même le dire. Osons le dire.
Disons-le.
Et donc dans cet album, bien sûr, il y a ce côté qui ressort. Puis il y a aussi la poésie quelque part sous les pavés.
Ouais, tout à fait. C'est des choses qu'on pouvait aussi ressentir dans les derniers albums d'HK et les Saltimbanques, dans certaines chansons. Mais c'est vrai que je me suis fait plaisir aussi là à me dire tiens. On peut aussi chanter voilà des belles et grandes chansons d'amour simplement ou des chansons portées vraiment sur la poésie, sur l'amour du mot, de l'image donnée par ces quelques mots assemblés les uns aux autres. Et c'est vrai que la chanson française recèle d'immenses chansons d'amour ou de chansons pleines de poésie.
On remarque aussi un titre de Renaud dans l'album.
Ouais, bah, parce qu'il y a eu ce choix par chanson et puis aussi par artiste où on se dit tiens quand même de toute façon ce serait bien d'en faire une de Renaud parce que Renaud ça reste Renaud tout simplement et alors pourquoi on a choisi celle-là, c'est dès que le vent soufflera, c'est peut-être quelqu'un m'a dit une fois mais c'est la moins renaudesque des chansons de Renaud, c'est moi j'aime bien cette idée du sens que prend la chanson quand on entend le vieux chanteur arabe à la fin quand il dit dès que le vent soufflera, nous nous en allerons dans un pays où aujourd'hui, où il y a quand même certains discours racistes, xénophobes persistants. Voilà, ça doit friser quelques oreilles et c'est vrai que c'est pas fait pour me déplaire.
Donc, une chanson qui a été, on va dire, créée il y a plus de 20 ans. Est-ce que tu sens le vent souffler en ce moment et dans quelle direction? Et toi, tu voudrais, tu espères que la girouette aille dans quel sens?
On vit dans une époque, je dirais, confuse. Pourquoi cette confusion? Donc, on a un système qui est à bout de souffle. Je pense qu'on est beaucoup à le constater, à le vivre, à le ressentir. Et face à ça, il y a pas mal de gens qui parlent de révolution, qui prennent la rue maintenant, mais au nom de valeurs exécrables, de replis identitaires, nationalistes, d'autrefois communautaires aussi. Donc nous, on fait partie de ces gens qui aimeraient que le basculement se fasse à l'opposé, sur un retour à des valeurs humaines et humanistes, de solidarité, de partage, de création, de sortir de cet individualisme, de cette société de l'hyper consommation et j'en passe. Maintenant, c'est vrai qu'on a l'impression que le vent souffle fort en face, quoi. Et donc, on est là, on lâche pas l'affaire. Mais voilà, j'ai l'impression que dans le très court terme, il y a quand même une dynamique en face qu'on essaie de contrebalancer, mais c'est pas évident.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tant, tant, tant. Moi, la mer, elle m'a pris, je me souviens, Marie. J'ai troqué mes sandiacs et mon cuir un peu zone. Père de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent. La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons.
Donc depuis HK né à Roubaix, on va dire. Et l'évolution du projet HK, HKS Altamanc, etc. Tu as parcouru la France, voire des pays du monde. Quand tu vois l'environnement actuel, est-ce que ça t'a fait réfléchir aussi à d'autres problématiques, d'autres pays? Est-ce qu'on peut les comparer? Par exemple, bon, on a parlé bien sûr des printemps arabes il y a un certain temps, c'est toujours en cours. On parle maintenant de l'Ukraine, d'autres pays qui se révoltent aussi contre les injustices, contre la corruption. Est-ce que tu te sens un peu impliqué aussi par ces problèmes?
Ouais, bien sûr, bien sûr. On se sent concerné. Après, ce qu'on voit aussi, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, c'est pour ça que je parlais d'époque confuse. Parce que notre premier réflexe, quand il y a des gens dans la rue qui se mobilisent, c'est d'applaudir dès demain. Et il faut, moi, j'essaie toujours de faire attention, d'essayer d'analyser, de prendre le recul et de comprendre qu'on vit aussi dans un environnement géopolitique, voilà, avec des ingérences de services secrets de certains pays dans d'autres pays pour des intérêts personnels, pour, enfin, c'est souvent beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Et alors bien sûr qu'il faut toujours garder et s'armer de ces bons sentiments qui sont les nôtres et évidemment de pouvoir au peuple, ça dans tous les cas de toute façon et de façon immuable. Après, c'est vrai que c'est toujours bien d'essayer d'avoir le recul et d'essayer de comprendre les choses un peu en profondeur et de comprendre quels sont les enjeux pour telle et telle puissance dans telle ou telle région et ça nous aide à comprendre bien des choses souvent.
Laissez parler le petit papier à l'occasion, papier chiffon. Puisse-t-il un soir, papier du bas, vous consoler? Laissez brûler le petit papier, papier de riz ou d'Arménie.
Donc les médias, tu commences un peu à les comprendre, à les connaître au niveau national, par exemple. Est-ce que tu en as tiré des leçons?
Disons que nous, quand on sort un album, donc notre idée, alors c'est sûr que les médias nationaux, il n'y en a pas, et des émissions dans les grands médias nationaux, il n'y en a pas beaucoup qui sont prêtes à nous accueillir. Donc à chaque fois qu'il y a des gens qui nous accueillent, on prend ça comme l'occasion de parler de notre musique, de montrer notre musique à des gens qu'on n'arrive pas à toucher en concert ou voilà, de pouvoir s'adresser directement à 100 000, 500 000, 1 million de personnes. Donc ce n'est pas rien. Donc c'est vrai que moi j'essaie souvent, l'exercice est un peu... j'allais dire périlleux, parce que c'est vrai que j'aime bien quand on a le temps d'échanger, quand on a le temps de prendre ses pauses, ses silences, de réfléchir aussi, c'est ça que j'aime par-dessus tout. Mais c'est vrai que quand on passe dans ces médias, c'est aussi pour des moments très courts. Donc l'idée, c'est de dire en quelques mots, de donner envie en quelques mots aux gens de venir nous écouter, venir nous voir en concert, d'essayer de prendre un petit bout de chemin avec nous. Et l'idée, c'est de pas spécialement de s'étaler. On n'a pas la possibilité, malheureusement, quoi. Tous ces grands médias, au-delà de nous, de notre cas personnel à nous, sont tellement normés, sont tellement que plus rien d'intéressant ne s'y passe. Malheureusement, c'est la vérité. On ne peut plus rien dire, rien faire d'intéressant parce que la part d'improvisation est portée à zéro, tout simplement, parce qu'ils ont peur, parce que cette frilosité, cette peur de quelque chose qu'ils n'auraient pas prévu, cette peur d'un événement. Mais au contraire, c'est ça qui est bon. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, il se passe quelque chose, on dit des choses intéressantes. Et ces grands médias sont vraiment, mais vraiment... Ouais, je disais frileux, mais à l'extrême.
Choisis pas ses parents, choisis pas sa famille. Choisis pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard.
Est-ce que ton expérience en région, l'agglomération lilloise, t'a structuré, t'a donné des armes pour conquérir de nouveaux publics, et puis t'a fait comprendre aussi quelques bases nécessaires de ce qu'est l'homme, la nature humaine.
Je suis né à Roubaix, donc quartier populaire, comme je le disais souvent et comme je pense avoir déjà eu l'occasion de le dire ici sur Radio Campus, je suis né entre voisins portugais et voisins italiens. Je me suis forgé, je me suis construit à Roubaix, dans cette ville où j'ai vécu, où je suis né, où j'ai vécu 35 ans. Et j'ai appris, ouais, je pense avoir appris pas mal de choses sur la nature humaine. Il y avait un condensé de planètes un peu dans mon quartier, autour du tour de pâté de maison, et puis une dureté sociale et plein de choses et plein d'événements qui à un moment donné accélèrent, j'allais dire, notre compréhension du monde. Quand on fait de la musique, on s'en va à Paris. On voyage un peu à travers la France, à travers le monde. Et puis c'est vrai qu'on va dans des médias, sur des plateaux de télévision, etc. Armé de ça d'un côté et de l'autre côté avec une image qui... les gens te voient toujours comme le jeune rebeu, le jeune issu d'immigration, qui veut s'intégrer, etc. Donc moi, il y a toujours ce côté un peu drôle de gens qui te regardent un peu d'en haut, un peu condescendant, et des fois avec plein de bonne volonté, quoi. Et qui peut-être après une discussion de 5-10 minutes, comprennent que à mes yeux, ils avaient l'air cons. Enfin, dans ces 5 premières minutes où je les voyais comme ça, oui, mon petit, quoi, un peu ce côté un peu paternaliste. Je m'arrête pas à ça, mais pas du tout en fait. Donc l'idée, c'est de continuer à voyager avec cette musique. Alors d'ailleurs, je fais le parallèle parce qu'on parlait des déserteurs. On reprend du Brassens et pour moi, ça, je le tiens un peu de Brassens. Je m'en inspire, je veux dire, modestement. Mais il y avait ce côté-là où les gens disaient mais quel homme vulgaire, et qui le regardaient par-dessus en disant mais c'est un grossier personnage. Et c'est drôle, mais ces gens-là ne comprenaient peut-être pas un dixième de la finesse et de la subtilité que Brassens pouvait mettre dans chacun de ses textes, et dans des textes qui peuvent paraître aussi grossiers que Garogori, par exemple, où moi je suis certain, alors je ne connais pas l'histoire précise, mais je suis certain que cette chanson, il l'a écrite en ayant d'abord la chute. Et je suis certain, quand le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme le pauvre garçon à qui le soir même il avait fait couper le cou. Et c'était une chanson pour moi contre la peine de mort et contre cette tyrannie du pouvoir. Et pour moi, c'est ça, Brassens. Et donc, c'est vrai que c'est ce qui est beau quand on choisit cette voie artistique, cette voie de saltimbanque, c'est de pouvoir se jouer à la fois des images, des perceptions des uns et des autres, et même les perceptions que les uns peuvent avoir sur vous, et pouvoir s'en amuser, quoi.
Alors c'est vrai que Brassens, moi je l'ai connu presque à ses débuts, hein, on peut dire, qu'à l'époque, il est arrivé là comme un ovni, hein, puis un provocateur en même temps, il se revendiquait anarchiste en plus, et il arrivait dans une télé hyper aseptisée, il y en avait qu'une à l'époque, c'était De Gaulle qui manageait tout. Bon, depuis, est-ce que quelqu'un comme Brassens peut encore surgir, avoir ce talent, cette légitimité et cet impact?
Des Brassens, il y en aura, entre guillemets, mais des gens qui peuvent avoir ce talent-là, mais ils sont forcément rares, ça c'est évident. Est-ce qu'ils pourraient émerger facilement aujourd'hui? Je pense pas. Je pense qu'ils existent, certainement, et qu'on les connaît pas, ou très peu, ou... Mais l'époque... Bon, alors, moi, je veux pas faire mon parano de bas étage, mais pour moi, il y avait comme une sorte de jurisprudence Coluche. Notre époque, c'est l'époque en France, hein, notre société post-Coluche. C'est-à-dire ce saltimbanque qui débarque, bon, c'était pas le seul, hein, mais je prends cet exemple-là, qui fout la merde, quoi, en gros, et qui prend une influence tellement énorme que, bon, il va se présenter aux élections, des sondages qui lui donnent 16%, mais c'est quoi ce bordel? Mais, donc, et j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, la société dans laquelle on vit, le système là-haut, où ils se sont dit, bon, on va faire gaffe maintenant. Enfin, c'est comme ça un peu que je le vois.
Ah, c'est vrai que Brassens, c'était pas au départ une bête, je veux dire, de télévision. Hein. C'était quelqu'un de relativement discret. Il arrivait avec sa petite guitare et tout, et il faisait tout lui-même, quoi.
Ouais, mais Brassens, c'est le... Pour moi, hein, quand on revoit les vidéos, tout est dans l'œil, quoi. L'œil taquin, l'œil coquin, il dit tout, quoi. Il dit tout dans ce regard. Derrière sa moustache, on sent son sourire. Ce que je disais tout à l'heure, où les gens se disent, bon, le dénigre, disent, mais c'est qui celui-là? Et lui, il en rit, quoi. Il sait déjà le coup qu'il va leur faire, quoi. Et il nous le dit à nous, téléspectateurs, quand on voit. Ben, je parlais tout à l'heure de Garogori. Je crois que c'est une vidéo de ça où il passe à la télé. Il est sur sa chaise et il balance les quelques accords. Et puis, il y a un public qui commence à avoir compris l'histoire qui va arriver, qui rigole, enfin qui applaudit, et on voit sur son œil qui pétille, et puis son petit sourire qui pointe, l'air de dire bon, je vais vous la faire celle-là, et puis donc voilà, et puis il y en a qui vont pas la voir venir. Donc ça c'est Brassens dans toute sa splendeur, quoi.
Si on pouvait imaginer une personne actuelle qui ait ce charisme, pas forcément un chanteur, tu verrais qui?
Alors, très honnêtement, je sais pas. Moi, je sais que, comme artiste, il y a des gens qui m'ont marqué quand je les ai croisés, que ce soit des artistes ou même des êtres humains, aussi simples, mais qui n'ont pas cette conscience-là de dégager un truc. C'est vrai qu'il y a l'ami Loïc Lantoine que j'adore. Mm-hmm. Et je pense que pas mal de gens adorent, et il renvoie ça à beaucoup de gens aussi. Et c'est quelqu'un qu'on ne voit pas, justement, qu'on n'entend pas dans les radios. Et je pense certainement qu'on le verra jamais, qu'on l'entendra jamais dans les radios, malheureusement pour la France, malheureusement pour notre époque. C'est des gens comme ça qu'on a envie de voir, d'entendre, cette authenticité-là, de retrouver, et il n'y a plus de place pour ça aujourd'hui, ça c'est clair dans les médias. Mais il y a une autre vie qui est la nôtre, qui est celle du monde réel, voilà, où les choses se font beaucoup plus lentement, on touche pas les masses, entre guillemets, mais où il se passe, c'est dans l'ombre aujourd'hui que se passent les plus belles choses, quoi.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais.
Alors, on va prendre une des chansons de ton album, et tu vas peut-être, on est dans un moment un peu particulier, nous dire, par rapport justement à cette époque, quelle est sa part de réalité et de vérité encore actuelle. C'est l'affiche rouge.
L'affiche rouge. Alors l'histoire, c'est le groupe Manouchian, c'est ces ouvriers étrangers, immigrés, qui au moment de la guerre, voilà, ont pris le parti de d'œuvrer pour la libération de la France, pour d'entrer en résistance et en commettant voilà des actes de résistance divers, et en ayant une grosse activité pendant cette période-là, et qui à un moment donné, vers la fin de la guerre, donc et qui se font donc arrêter, et qui sont exécutés le 21 février 1944. Il y a eu cet épisode-là où le régime de Vichy, l'occupant allemand avec le régime de Vichy, quand ils ont connu l'identité de ces résistants qui leur donnaient tellement de mal, qu'ils ont vu voilà tous ces noms étrangers. Aragon dit dans son poème « Parce qu'à prononcer, vos noms sont difficiles ». Et donc voilà, les ont mis sur une affiche rouge qu'ils ont placardée sur les murs de nos villes en disant « aux bons français », entre guillemets. Vous voyez, ce ne sont pas des résistants, ce sont des étrangers, ce sont des vilains. Vous voyez, ces gens-là, vous ne pouvez pas être avec ces gens-là. La bonne France, la vraie France, c'est la nôtre. C'est celle qui s'est vendue à l'occupant allemand, en gros. Et donc cette affiche emblématique est devenue un acte de contre-propagande quand des gens ont écrit en dessous « Mort pour la France », pour dire « Voilà, ces gens-là, ce sont nos héros, oui, oui, ce sont nos héros ». Et donc cette histoire-là de Manouchian et de ses compagnons de lutte a été immortalisée d'abord par Aragon, par ce poème, et mis en musique ensuite par Léo Ferré. Et ça a donné cette chanson « L'affiche rouge ».
Voilà, donc quand la République rend hommage à Manouchian, ce serait bien aussi de réfléchir dans les actes comment ça se traduit.
C'est sûr, parce que moi je alors cette histoire de l'affiche, enfin je peux m'empêcher, je sais que ça n'a rien à voir, mais je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec ces affiches électorales qu'on a connues beaucoup et qu'on revoit aussi souvent pointant du doigt à l'étranger, la France aux Français et tout ce sur quoi on veut jouer dans l'inconscient des gens, toute cette fibre raciste qu'on essaye d'éveiller, xénophobe, cette peur qu'on essaye d'éveiller chez les gens en leur disant voilà, faites attention à lui, à lui, à lui. Et ça, on le voit aussi dans certaines affiches électorales, donc qui sont quelque part, d'une certaine manière, les héritières de l'affiche rouge.
On va conclure sur ces propos. Merci, HK.
Merci à toi.
L'affiche rouge, Les Déserteurs, extrait donc de cet album qui vient de sortir.
Ce sujet a été réalisé par René Lavergne de Radio Campus.
Vous n'aviez réclamé ni la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y chercher un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine, et le plaisir. Adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en les rêvant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sous nos pas triomphants. Ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient le cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.